Donc, je m'appelle Arnaud Ciel, j'ai 49 ans, je dirige une boîte qui s'appelle CA+. Depuis 13 ans, je fais du conseil en marketing et en développement commercial. Depuis 13 ans, je suis moi aussi consultant et depuis 13 ans, j'ai, comme bon nombre d'entre nous ici, j'imagine, à vendre mes services. Au fait, tiens, avant qu'on rentre dans le sujet, combien d'entre vous sont déjà des consultants installés? D'accord. Et combien d'entre vous s'apprêtent à s'installer comme consultant dans les prochaines semaines? D'accord. Donc fort logiquement les autres. Donc chers consoeurs, chers confrères, une nouvelle fois bienvenue. Nous allons donc passer ensemble une heure sur un sujet passionnant, sur un sujet vital aussi. Comment faire preuve d'audace dans notre démarche commerciale? En quoi d'ailleurs l'audace pourrait-elle être un axe pertinent pour notre développement commercial? Par exemple, à quoi est-ce que cela peut servir d'oser défendre ses prix? En quoi est-ce que c'est pertinent d'oser dire non à un client qui nous demande une remise? En quoi est-ce que c'est pertinent d'oser se spécialiser? Autant de questions que nous allons aborder ensemble pendant une heure. D'ailleurs, je vous proposerai régulièrement d'intervenir, de participer, de réagir. Est-ce que ça vous convient? Oui? Super. Et alors, pour répondre à toutes ces questions, je vous propose qu'on suive le parcours d'un consultant qui se lance. D'accord? C'est-à-dire qu'on va imaginer un consultant qui s'appelle, je sais pas moi, Gontran, par exemple. Gontran consultant, et il décide de s'installer, et on va voir qu'il y a trois moments où il est pertinent de faire preuve d'audace. D'abord au démarrage, et on va voir en quoi, lors des premières semaines, lors de sa création d'activité, ça peut être pertinent tout de suite de faire preuve d'audace. Ensuite, gros morceau, ça sera durant l'action commerciale, et c'est bien un sujet où l'audace peut se révéler payante. Et enfin, on parlera également de l'intérêt de faire preuve d'audace dans ce que j'appelle moi la phase de production. Vous savez, c'est dans la relation avec le client, quand on fait des choses pour eux, des missions, et puis qu'on fait des factures. Donc en quoi est-il pertinent de faire preuve d'audace dans la phase de production? Voilà, durant ces trois ensemble, comment et en quoi est-il pertinent de faire preuve d'audace? Je remarque que vous êtes nombreux à avoir un bloc-notes et un stylo, et j'aimerais vous proposer quelque chose du coup. J'aimerais vous proposer, dans votre phase de prise de notes, que de temps en temps vous fassiez un petit signe, un petit code pour vous dire, bah, tiens, ça me plaît particulièrement, et je décide de le tester, de le mettre en œuvre, enfin au moins de le tester dans les prochaines semaines. Ainsi, peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous vous direz, tiens, j'étais allé à une conférence au salon SME et j'ai mis en place ce conseil-là et il s'est révélé effectivement très concret et surtout très utile. Ainsi, ça vous permettra, je l'espère, de tirer le plus grand profit de ce moment que vous avez décidé d'investir ici au salon SME. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? On est parti? Vous êtes bien installé? Alors, donc Ah oui, j'oubliais. À la fin de cette conférence, d'une part, on va essayer de garder une dizaine de minutes. Vous me ferez bien signe au fond pour me dire 10 minutes. On va essayer de garder 10 minutes pour une séance de questions-réponses. Donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre. Et à la fin, à 16h, j'aurai grand plaisir à vous retrouver sur le stand d'Uno, qui se trouve à l'emplacement A10, si je ne me suis pas trompé. Et j'aurai grand plaisir à continuer cet échange avec vous et à vous dédicacer un exemplaire de mon dernier livre, qui s'appelle « Consultant, se lancer, réussir et durer », qui est chez Duno. Voilà, consultant, osez tout. Alors, peut-être que les plus anciens d'entre nous se rappellent d'une réplique culte dans le cinéma français, dans Les Tontons Flingueurs. J'en vois certains qui sourient. Vous vous rappelez de cette réplique? Comment je le reconnaîtrai? Mais c'est facile. Les cons, ça ose tout. C'est justement à ça qu'on les reconnaît. Donc ça date un petit peu. Et souvent, cette réplique, « les cons, ça osent tout », c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Souvent, cette réplique est extraite de son contexte cinématographique et souvent, elle est utilisée pour faire l'éloge de la retenue, de la discrétion, de la bonne tenue. Les cons, ça osent tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Moi, j'aimerais remettre cette réplique dans son contexte cinématographique, justement. Le film s'appelle « Les tontons flingueurs » et le personnage qui dit ça, « les cons, ça osent tout », rappelez-vous, quel est son métier ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un bandit, c'est un voyou. Et quelles sont les deux caractéristiques principales d'un voyou ? Et il en a plusieurs, vous remarquez, mais il a deux caractéristiques importantes, un voyou. L'audace. Alors, non, moi je pensais à deux caractéristiques négatives. La première caractéristique du voyou, c'est que c'est un feignant. Alors pas toujours en plus. C'est un feignant parce que souvent le voyou cherche un très faible investissement de travail pour un très gros rendement. La deuxième caractéristique d'un voyou, c'est que très souvent c'est un lâche. On n'entend jamais dans les actualités que Teddy Riner a été agressé dans la rue pour se faire voler son portable. Ça je l'entends jamais. En revanche j'entends tous les jours qu'une dame de 70 ans s'est faite agresser pour se faire voler son collier. Ça je l'entends tous les jours. Le voyou, il a deux caractéristiques. C'est un feignant et c'est un lâche. Si on revient, nous, au monde des entrepreneurs, le nôtre, deux caractéristiques fortes d'un entrepreneur, mais c'est exactement l'inverse. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux, parce qu'il décide de prendre des risques, il décide souvent d'abandonner un statut confortable au profit d'un statut bien moins confortable, bien moins sécurisé. Donc l'entrepreneur, il est courageux. Et la deuxième caractéristique forte d'un entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement travailleur. C'est quelqu'un qui bosse souvent énormément. C'est-à-dire quand on interroge un patron de TPE sur le nombre d'heures qu'il fait, je crois qu'il reste encore des chaises, hein, madame. Mais pas du tout, moi c'est pour vous. L'entrepreneur, il a deux caractéristiques qui sont exactement opposées à celle du voyou. Il est courageux et il est travailleur. Du coup, j'aimerais qu'on prenne justement le contre-pied de cette réplique de voyou. Les consultants, ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Les entrepreneurs, ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Faisons preuve justement d'audace. Et n'appliquons surtout pas ce conseil de voyou, mais appliquons au contraire un conseil d'entrepreneur, les consultants ça ose tout, les entrepreneurs ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Et je vous propose qu'on appuie sur l'audace l'ensemble de nos démarches de développement. On est parti ? Au démarrage. Ça y est, on a décidé de se lancer. Déjà, quelle audace de se lancer et d'oser vendre ses services, plusieurs centaines d'euros la journée, parfois plus de 1000 euros la journée. Quelle audace déjà d'oser s'installer comme consultant. Alors au moment du démarrage, moi j'aimerais vous proposer plusieurs applications concrètes de l'audace. La première, osons brûler nos vaisseaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tiens, ceux et celles qui se sont lancés, qui sont déjà installés, quel statut avez-vous choisi ? Vous avez choisi quel statut pour vous installer comme consultant ? Oui, le statut juridique, pardon. Portage salarial ? Oui. SAS ? Oui. SARL ? Auto-entrepreneur ? Cnuscope, d'accord. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur ce premier point. Le métier de consultant, effectivement, on peut le démarrer avec plein de statuts différents, vous en avez cité de nombreux. Attention au statut qui indiquerait que l'on n'est pas le premier à croire dans nos chances de succès. C'est-à-dire que si on choisit un statut qui est clairement marqué comme étant un statut qui permet de faire machine arrière, si on choisit un statut qui clairement envoie le signal que l'en fait, nous sommes les premiers à ne pas croire dans nos chances de succès sur ce marché, par quel miracle les clients pourraient-ils croire en nous ? J'aimerais attirer votre attention sur ce premier point, sur la première application concrète de l'audace. Osons brûler nos vaisseaux, c'est-à-dire faisons un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez la légende du navigateur Cortés, qui en arrivant sur je ne sais quelle grande île qu'il avait découverte, avait fait brûler l'ensemble des vaisseaux qu'il avait amenés jusque-là, pour envoyer le signal fort à ses équipages qu'on ne pouvait plus faire machine arrière, qu'on était obligé de réussir dans la conquête de ce nouveau territoire, parce que de toute façon, on n'avait aucune solution de retour. C'est-à-dire que la première application concrète de l'audace que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, c'est-à-dire choisissons un statut qui envoie clairement le signal au marché et à nos clients que nous sommes les premiers à croire dans nos chances de succès, puisqu'on a choisi un statut qui ne permet aucun retour en arrière. Concrètement, pour être très opérationnel, le conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est choisissez un statut de société, choisissez un statut d'entreprise, la SAS, la SARL, la SASU, peu importe. Mais choisissons un statut qui montre que nous sommes les premiers à croire dans nos chances de succès. Et l'intérêt en plus du statut de société, du statut d'entreprise, il permet en plus de dialoguer d'égal à égal avec les clients chefs d'entreprise, parce qu'on peut leur dire « je suis comme vous, un dirigeant ». Il va nous permettre dans l'avenir peut-être d'ouvrir notre capital et d'avoir d'autres consultants associés avec nous. Et choisissons un capital, un montant de capital social qui envoie également qu'on ait le signal que définitivement nous croyons dans nos chances de succès. C'est-à-dire quelque chose d'au moins largement supérieur à 5000 euros pour envoyer clairement ce signal au marché. Nous sommes les premiers à croire dans nos chances de succès. Donc premier moment et première application concrète de l'audace que je vous propose, c'est de brûler nos vaisseaux et de se lancer sur ce marché en se disant de toute façon, il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de machine arrière. Le plan B, c'est de réussir le plan A. Osons brûler nos vaisseaux. Deuxième application concrète de l'audace, c'est d'oser se spécialiser. Parmi ceux et celles qui se sont lancés ou qui sont déjà installés, qui parmi nous a dépassé les 35 ans ? Donc quand même, nous sommes majoritaires, effectivement. Souvent, on s'installe comme consultant quand on a passé les 35 ans, et c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que c'est un métier qui requiert beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de recul, une bonne culture générale de l'entreprise. Donc autant de qualités qu'on acquiert plus tôt avec l'âge, et c'est vrai que c'est une bonne chose de se lancer, on va dire, après 35 ans. L'inconvénient, c'est que quand on arrive à ces âges, à ces grands âges, on a une large expérience. Et on a ainsi tendance, quand on élabore son offre, je vois madame qui hoche la tête, à avoir une offre qui ressemble à celle de Accenture. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, ben, je fais du conseil en RH, du conseil en développement commercial, du conseil en marketing, du conseil en supply chain, du conseil en lean management, Waouh, vous êtes combien ? Ben, hein, pourquoi ? Et là, effectivement, les clients sont comme vous, ils rient poliment, parce que on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Est-ce que nous-mêmes, en tant que particuliers, on confierait au même prestataire le fait de déboucher ses WC, de garder ses enfants, et de nous emmener, ça s'appelle un mari, Donc est-ce qu'on confierait au même prestataire payant, madame, au même prestataire payant, le fait de déboucher ses WC, de garder ses enfants et par exemple de nous emmener en haut du Mont Blanc ? Peut-être pas. Alors peut-être qu'on a le même ami, effectivement, j'ai un très bon ami qui est guide de haute montagne, qui est très bricoleur et qui a des enfants, donc c'est vrai qu'il peut faire tout ça, mais se pose quand même une question de crédibilité sur le marché. Et regardez la tendance, tous les professionnels du savoir, tous les professionnels de la matière grise se spécialisent. Si vous habitez une grande ville, si vous habitez Paris, Lyon, Marseille, Lille, si vous rencontrez un avocat, par exemple, et qui vous dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Ben, je suis avocat. » Quelle est la première question que vous lui posez ? En quoi tu es avocat ? Hein, quelle est ta spécialité ? Et s'il vous répond « Ben, je suis spécialisé en droit », là encore, il va vous faire marrer, mais il ne va pas vous inspirer de la confiance. Tous les professionnels du savoir se spécialisent. Donc, osons nous spécialiser quand on démarre. Ça nous fait peur de nous spécialiser parce qu'on dit « Mais non, mais t'es couillon, je vais perdre des chances, je vais perdre des affaires. Non, il faut que je dise tout. » Eh oui, mais si tu dis tout, tu vas rien attraper. Donc, osons nous spécialiser. Osons ne pas étaler sur le marché tout notre savoir, toute notre expertise, toute notre richesse. Osons nous focaliser pour être crédibles. Parenthèse d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut se spécialiser ? On a deux axes possibles. Hein, soit on spécialise sur un métier, sur une fonction, je suis expert de la logistique, par exemple. Soit on peut se spécialiser sur un secteur d'activité. Il y a par exemple des consultants, moi je pense à quelques confrères par exemple, qui sont spécialisés sur l'univers de la restauration. Hein, donc on peut se spécialiser sur un métier. Je me souviens d'avoir rencontré une jeune femme ici qui s'était spécialisée sur les deux axes d'ailleurs. Spécialisée dans conseil RH pour les cabinets d'avocats et pour plus généralement les structures juridiques. Bon, à Paris, elle était installée à Paris, elle n'était pas installée à Guéret. On peut même imaginer de se spécialiser à la fois sur un métier comme par exemple les RH et pourquoi pas en même temps sur un secteur d'activité. Pourquoi pas se spécialiser sur les RH dans le monde du BTP ? Spontanément, je pense qu'ils en auraient bien besoin. Mais donc on peut ou se spécialiser sur un secteur ou sur un métier, ou les deux en même temps. Mais dans tous les cas, osons se spécialiser, osons renoncer à une part de savoir-faire que l'on ne va pas proposer au marché, que l'on ne va pas afficher, pour être crédible. Quitte ensuite... Tiens, j'avais pas prévu d'en parler, mais on peut le rajouter. Quitte ensuite à ce que ce que l'on n'a pas affiché devienne une espèce d'offre cachée que l'on pourra développer avec nos clients une fois qu'on les a conquis, une fois qu'on les a séduits, une fois qu'on a gagné leur confiance. Parce que d'ailleurs, les clients sont d'ailleurs bourrés de contradictions. Ils veulent des spécialistes, ils veulent des experts, mais une fois qu'ils ont trouvé un prestataire, un conseil avec lequel ils sont bien, ils n'arrêtent pas de vouloir élargir le champ des sujets sur lesquels ils le sollicitent. Donc on peut tout à fait avoir une offre visible, affichée, et une offre cachée, réservée ensuite aux clients. Mais vraiment, surtout au démarrage, et puis sur les 20 années qui suivent, osons afficher un positionnement d'expert, de spécialiste, et osons renoncer à certains sujets, au moins en facial, au moins en affiché. Enfin, toujours au démarrage, j'aimerais vous proposer une dernière application concrète de l'audace. Imaginons, on a démarré, ça y est, ça fait 2-3 mois qu'on a créé notre SASU. Et puis, les 2-3 premiers mois, justement, sont, comment dire, un peu très difficiles. C'est vache maigre. Et on a une grande entreprise, un grand organisme de formation nationale, on va l'appeler, pour pas me faire d'ennemis, on va l'appeler Porthos. Ce grand organisme, Porthos, nous fait une proposition. Il nous propose d'animer 50 journées de formation, d'un coup, enfin pas le même jour évidemment, il nous propose d'animer 50 journées de formation à 450 € TTC. C'est tentant, hein. Qu'est-ce que nous avons intérêt à lui répondre à Porthos ? La réponse est un peu sur la slide, mais je vous sens hésiter quand même. Mais oui, c'est vrai qu'on hésite surtout si les 2-3 premiers mois sont très difficiles. Donc on se dit quand même, Porthos, 50 x 450, ça peut être bien. Ça peut être aussi une référence, c'est vrai. Un réseau, puis ça va nous occuper. On est brûlé. Ouais. L'application concrète de l'audace, moi, que j'aimerais vous proposer, c'est osons lui dire non à Porthos. Osons dire non au grand donneur d'ordre qui nous propose de réaliser un grand nombre de journées en sous-traitance, plutôt très mal payées. Pourquoi oser lui dire non ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on travaille pour un grand donneur d'ordre, on ne développe pas notre fonds de commerce. Ce ne sont pas nos clients, et c'est bien normal d'ailleurs. Et on a d'ailleurs interdiction de revendre des prestations nous concernant à ces clients-là, ce ne sont pas les nôtres. Donc on ne développe pas notre fonds de commerce. Deuxième inconvénient, on ne peut pas généralement citer les clients pour lesquels nous sommes intervenus en référence. On a souvent cette interdiction-là. Alors on peut citer Porthos comme référence, mais pas les clients de Porthos. Souvent c'est le cas. On peut se retrouver à subir les mauvais comportements du donneur d'ordre, qui annule les journées au dernier moment, qui paye à rallonge, qui paye avec des délais à rallonge, qui nous envoie aux quatre coins de la France. Et enfin, on se retrouve dans une situation qui est très très pernicieuse, pour l'avoir constaté chez bon nombre de mes clients, c'est qu'on se retrouve accaparé par ce grand donneur d'ordre, mal payé, et sans avoir du temps pour développer notre propre business. Donc, l'application concrète de l'audace que j'aimerais partager avec vous dans la phase de démarrage, c'est alors que c'est tentant, osons dire non au grand donneur d'ordre et privilégions plutôt le développement de notre propre clientèle, de nos propres clients à nous, que l'on va pouvoir citer en référence et chez lesquels on pourra développer du business additionnel, du business récurrent. Donc osons dire non à Porthos et ses amis. Osons brûler les vaisseaux pour ne pas pouvoir faire machine arrière. Et enfin, osons nous spécialiser. Voilà trois applications concrètes dans la phase de démarrage. Si maintenant on s'intéresse à l'action commerciale. Ah, voilà bien un sujet sur lequel l'audace peut se révéler extrêmement payante. Déjà, la première application concrète que j'aimerais partager avec vous, c'est d'oser solliciter notre réseau. Depuis 2003, moi je suis très surpris, depuis 2003 j'accompagne des entrepreneurs, je suis extrêmement surpris de voir le nombre d'entrepreneurs qui répugnent à solliciter son réseau. Alors que c'est pourtant notre premier actif pour démarrer notre business. Solliciter son réseau, ça veut dire trois choses. La première, ne pas hésiter à demander des mises en relation. Les réseaux sociaux sont géniaux en plus pour ça, parce qu'ils nous permettent d'identifier que on a quelqu'un que l'on connaît, qui bosse déjà, mettons, chez Carrefour, si tant est qu'on ait envie de prospecter Carrefour, le groupe Carrefour. Et c'est super, on va pouvoir appeler cette personne et lui dire « Est-ce que tu peux me mettre en relation avec le responsable de la logistique de la zone sud-est ?» C'est un petit service qu'on lui demande, la mise en relation, mais déjà, qu'est-ce que ça peut nous aider ? Qu'est-ce que ça peut nous faire gagner du temps ? La deuxième façon de solliciter son réseau, elle est un peu plus impliquante, c'est de demander une recommandation. C'est-à-dire que là, l'interlocuteur que l'on sollicite se porte garant. Il nous recommande, il s'engage auprès du responsable de la logistique sud-est pour dire oui, vraiment tu as intérêt à rencontrer ce garçon ou cette fille, il est super, elle est super. J'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec elle pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et j'en réponds. Donc là, c'est un deuxième niveau, beaucoup plus engageant. Là, on va, par exemple, du coup, solliciter nos anciens managers, nos anciens collaborateurs, nos anciens collègues. On va solliciter les gens qui nous ont vus à l'œuvre et qui sont normalement, on l'espère, en mesure de répondre de nos qualités professionnelles. Et enfin, le troisième niveau de sollicitation de son réseau, c'est de demander des témoignages. Ça, c'est très 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 précieux, des témoignages. On a intérêt à demander des témoignages, même chose à nos anciens collaborateurs, à nos anciens managers, à nos anciens patrons, à nos anciens clients. Autant de personnes que l'on peut solliciter, directement en les appelant, hein, pour leur demander des recommandations qui vont du coup prendre place sur nos profils de réseaux sociaux et également ça peut être très précieux de rajouter ces témoignages en fin de proposition commerciale. C'est un très bon endroit dans lequel mettre des témoignages. C'est, vous savez, quand on remet une propale, on en reparlera d'ailleurs, c'est un très bon endroit dans lequel faire figurer des témoignages. Donc trois façons de solliciter son réseau, des mises en relation, des recommandations et des témoignages. Mais pour paraphraser le slogan publicitaire d'un réseau social, notre réseau est bien souvent beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Et n'hésitons pas, ne répugnons pas à le solliciter. C'est un actif très précieux pour quand on démarre. Deuxième application de l'audace, oser être différent. Oser être différent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que trop de consultants sortent le même PowerPoint sur lequel il y a marqué mission, vision, sur lequel il y a marqué les mêmes mots, bien souvent abscons d'ailleurs. Osons être différents, osons cultiver un ton, un style, des mots différents. Les prospects n'attendent pas forcément des discours stéréotypés et exactement identiques à ceux qu'ils viennent d'entendre. Quand on est indépendant, on n'est peut-être pas obligé de singer les discours des gros cabinets. On a peut-être même intérêt, une nouvelle fois, bien cultiver notre différence et à avoir donc un discours différent, un discours TDA totalement différent des autres. Il faut juste faire attention à ne pas être TACP, c'est-à-dire totalement à côté de la plaque, mais ça vous en rendrez compte dans le regard de vos prospects. Autre application de l'audace, toute simple, oser prospecter. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré en 2003, j'ai entendu un certain nombre de conseils, notamment celui-ci. On m'a dit « Ah, tu te lances sur le marché du consulting ». Alors, le consulting, c'est un marché où le business se fait via des réseaux informels et cachés. J'ai dit « Ah mince, mais ils sont où ?» Ben, t'es con, je viens de te le dire, ils sont informels et cachés. Donc on ne peut pas les trouver. C'est que la croyance qui est beaucoup partagée, développée, c'est qu'il serait impossible de prospecter, impossible de vendre du conseil, du consulting, autrement que via des réseaux informels et cachés. J'ai testé. J'ai cherché les réseaux informels et cachés, je ne les ai pas trouvés. Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai prospecté des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai une très bonne nouvelle à partager avec vous. Il est tout à fait possible de prospecter des gens que l'on ne connaît pas. Ils nous font rien de mal. Et même, certains deviennent des clients. Et pour certains, des clients très fidèles depuis 13 ans. Donc on peut prospecter. Osons prospecter. La plupart des gens qui développent le conseil de « il est impossible de prospecter, le consulting, ça ne se vend pas comme ça » sont des gens qui n'ont jamais rien vendu à qui que ce soit. Hein, c'est souvent le profil conseiller création de l'entreprise de la CCI. Donc c'est normal qu'ils vous disent ça. Mais si vous interrogez des vrais entrepreneurs, ils vous diront bien sûr que oui, bien sûr que c'est possible de prospecter, de vendre du conseil, sous réserve évidemment qu'on choisisse ses prospects avec pertinence. Tiens, une parenthèse, j'avais pas prévu d'en parler, mais un conseil très pratique. Les trois qualités du bon prospect se résument dans ce sigle, c'est PAF. PAF le bon prospect, parce qu'il a trois qualités, c'est la pertinence, l'affinité et la facilité. La pertinence, c'est-à-dire que a priori ce prospect a besoin de mes services, de mes compétences, compte tenu de ce que je sais de sa situation. Je sais qu'il veut se développer sur le marché de la Russie et je suis un expert du business sur ce marché, donc je vais le prospecter parce que c'est très très pertinent pour lui. L'affinité, c'est que j'aime bien ce secteur, j'aime bien cette entreprise ou j'aime bien cet entrepreneur. Je partage avec lui des valeurs et je vais pouvoir lui déclarer cette affinité. Et la facilité, c'est que je peux l'appeler de la part d'eux, ou en indiquant que je suis comme lui un ancien de telle grande entreprise ou un ancien de telle école, ou que j'ai tel ou tel point commun avec lui. Et j'ai un client d'ailleurs qui a inventé le pafomètre, qui lui indique le meilleur score des prospects, et il prospecte évidemment en premier les prospects qui ont le meilleur score au pafomètre. Et ainsi, il obtient de très très bons scores dans sa prospection. Donc, osons prospecter. C'est tout à fait possible d'appeler des gens, d'aborder des prospects que l'on ne connaît pas. Tiens, encore là aussi, tiens, un autre exemple d'audace. J'ai un client qui s'est installé comme consultant après une longue carrière de patron de PME dans le secteur industriel. Et il me dit, moi, ce que j'aime, j'ai horreur du téléphone. Ce que j'aime, c'est voir les gens. Et vous savez comment ils prospectent ? En porte à porte. Directement. C'est-à-dire qu'il va dans les zones industrielles, il pousse la porte et il dit, bonjour, je suis un nouveau chef d'entreprise dans la région et j'aimerais rencontrer votre patron. Et ça marche très bien. Donc, enlevons les barrières, osons prospecter, c'est tout à fait possible de prospecter, et ça marche. Maintenant, dans cette prospection, alors on a fait une parenthèse sur le PAF, c'est vrai que c'est important de bien choisir ses prospects avec beaucoup de pertinence, d'affinité et de facilité, et d'être vraiment dans une approche qualitative plutôt que quantitative. Souvent, on me pose la question, combien de coups de fil il faut passer pour décrocher un rendez-vous ? Vous savez quelle réponse je donne ? Le moins possible. Aujourd'hui, en 2016, combien de coups de fil faut-il décrocher pour obtenir un rendez-vous ? Le moins possible. En étant extrêmement préparé en amont et en sélectionnant nos prospects avec beaucoup donc, de pertinence, d'affinité, et de facilité, et notamment le critère « je vous appelle de la part d'eux » peut être un énorme facilitateur dans la prise de rendez-vous. Maintenant, pour que cette démarche de prospection soit réussie, il va falloir qu'on continue à faire preuve d'audace et que l'on ose maîtriser les étapes de la vente. Parce que, tiens, combien de rendez-vous faut-il pour vendre du conseil ? Trois ? 4, tout de suite 1, du one shot, bravo, 2. Alors, moi, c'est variable, ça dépasse. Dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est de décider à l'avance. C'est-à-dire, décidons à l'avance en combien de rendez-vous on veut vendre. Parce que si on ne décide pas à l'avance en combien de rendez-vous on veut vendre, on risque de vivre la vie d'un bouchon dans une rivière. Je ne sais pas si vous connaissez la vie d'un bouchon dans une rivière, mais c'est une vie, le pauvre, où il décide de pas grand-chose. Il est porté par le courant et il subit complètement là où la rivière veut l'emmener. Donc décidons à l'avance du nombre de rendez-vous selon lequel on veut vendre. Personnellement, moi j'ai choisi un cycle en deux temps et avec beaucoup d'originalité, j'ai appelé ça R1 et R2. Le R1, qu'est-ce qu'il permet ? C'est le premier rendez-vous, c'est quand on rencontre un prospect pour la première fois, qu'on arrive, vous savez, on est un petit peu tendu, on lui dit bonjour. Deux enjeux principaux dans le R1, séduire, créer le lien et comprendre sa problématique, comprendre son problème. Le but du R2, simple aussi, il y en a deux, convaincre, lui donner envie de travailler avec nous, et conclure, c'est-à-dire avoir le chèque d'acompte et la signature, enfin, ou au moins la signature. Alors dans le détail, comment ils se déroulent ces deux rendez-vous qu'est-ce qu'on met dedans et comment on peut les réussir. Je vous propose qu'on fasse un focus très opérationnel du coup sur ces deux rendez-vous et j'espère que ça fera partie des choses très concrètes que vous pourrez retenir de cette conférence. Premier rendez-vous, comment séduire. Donc là c'est le premier, vous savez, on arrive chez le prospect, toujours ce petit moment un peu tendu, bonjour, un peu. Café, pas café, c'est un peu tard, là je vais pas dormir, il est café. Est-ce que je bois du café ou pas avec le client, avec le prospect ? Donc c'est le début. Là, on est nombreux à avoir choisi un outil, qui est le bon vieux diaporama, le bon vieux PowerPoint ou le Keynote pour les fans d'Apple. Mais oui, c'est un très bon outil pour présenter son offre. Oui. Ouais, moi j'aime bien. Non, vous n'avez plus. Donc, dans tous les cas, on va utiliser un support. Alors, je sais pas, si vous n'utilisez pas un PowerPoint, vous utilisez quoi, madame ? D'accord. OK. Souvent, en début de rendez-vous, il est nécessaire donc de quand même de présenter son offre et quelque part de gagner dans l'esprit du client l'image d'un professionnel crédible, compétent et bien faire comprendre au prospect le sujet sur lequel on est capable d'intervenir, le sujet sur lequel on est capable de lui servir à quelque chose, sur lequel on est capable donc de l'aider. Pour cela, deux recommandations pratiques. La première, parler la langue du client. C'est-à-dire que là, en tant que consultant, en tant qu'expert, souvent le piège dans lequel on tombe, c'est d'une part de parler de notre expertise. Et on va employer tous les mots jargonneux de notre expertise. On va parler de GPEC, on va parler de Lean Management, on va parler de Supply Chain. On va parler de je ne sais quoi, de PDCA. Je ne sais pas ce que c'est ça. Le client ne sait pas, ne comprend rien à tous ces sigles. Autre erreur possible, de parler le jargonneux du consultant. Vous savez, des phrases du type on adresse le mid-market en implémentant les best practices pour aider les dirigeants à switcher de paradigme. Ça, c'est une espèce de florilège magique. Si vous prospectez des patrons de PME en région et que vous dites ça, c'est un coup à finir avec du goudron et des plumes dans la cour de l'usine. Mais vous ne gagnerez pas des clients. Donc faisons attention et bannissons tout ce qui est le langage de l'expert, tout ce qui est sigle, tout ce qui est jargonneux et tout ce qui est discours de consultant, a fortiori si on s'adresse aux TPE et aux PME. Et parlons au contraire la langue du client, c'est-à-dire les sujets qui l'intéressent, les problématiques qui sont les siennes, et, très important, montrons notre utilité. C'est-à-dire que certes, le client veut comprendre notre domaine de compétences, notre domaine d'intervention, notre domaine de légitimité, mais surtout à quoi nous servons, ce que nous apportons. Et pour cela, il y a d'ailleurs un moment très fort dans sa présentation initiale, c'est de relater quelques études de cas concrètes, résumées, disant, ben voilà, vous voyez par exemple dans une PME comme la vôtre, je suis intervenu, ils avaient telle et telle problématique, j'ai fait ça, 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 et le résultat concret a été ça, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà à quoi je sers. En fait, quand le prospect nous reçoit, c'est la seule question qu'il se pose. À quoi ce type ou cette fille peut-elle me servir ? À quoi ça sert ce truc, se dit-il ? Donc c'est la question à laquelle on doit l'aider à répondre à cette question et on doit lui montrer notre utilité. À quoi on sert ? Au travers de mini-études de cas. Ça c'est très pratique. Alors vous allez me dire, si on démarre, comment on fait ? Comment fait-on ? On peut puiser des mini-études de cas dans notre expérience professionnelle, ou alors imaginer des exemples théoriques d'intervention. Mais dans tous les cas, c'est important qu'au travers d'un exemple concret, notre prospect puisse avoir la réponse à quoi peut-il, peut-elle me servir. Donc finalement, la recette est déroutante de simplicité. On parle un langage simple, concret, opérationnel, et on explique et on démontre à notre prospect ce à quoi on peut lui servir, ce qu'on peut lui rapporter. La durée maximum d'une présentation en début de rendez-vous, grand grand maximum 9 minutes. Et déjà 9 minutes, c'est super long. Si vous arrivez à faire 7-8 minutes, ça sera beaucoup plus efficace. Et là, l'idéal, c'est de s'entraîner à la maison. Ou au bureau, avec son diaporama, avec son smartphone pour s'enregistrer, et de se chronométrer. Est-ce que je suis bien dans les 7-8 minutes ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça roule ? Parce que si ça marche bien, si on réussit à atteindre l'objectif, eh bien le client, c'est merveilleux, il va comprendre notre utilité. Et du coup, c'est super parce qu'il va pouvoir se livrer, il va accepter même de se livrer, et il va accepter de nous livrer son problème. Et ça va être le deuxième moment fort de réussite du R1, c'est la phase durant laquelle on va chercher à comprendre la problématique, le besoin, le problème du client. Là encore, quelques conseils pratiques. Trois qualités dans cette phase de questionnement. De la pertinence, de la perspicacité et de la bienveillance. De la pertinence, de la perspicacité, c'est-à-dire que le client attend de nous, experts, que nos questions le fassent avancer. Il attend de nous, experts, que nos questions lui permettent d'avancer dans sa réflexion, d'avancer dans la résolution de son problème, et commence même à mettre en évidence des débuts de solutions. Et cela, on va gagner, on va être capable de faire preuve de pertinence, de perspicacité, grâce à la qualité de notre préparation. C'est-à-dire que s'il y a bien un métier dans lequel les rendez-vous commerciaux doivent être extrêmement préparés, c'est bien le métier de consultant. Parce que nos prospects attendent énormément de pertinence, de perspicacité. Et cette pertinence, cette perspicacité, on pourra en faire preuve grâce à de la préparation, de la documentation sur le métier, sur l'entreprise, sur le client. Et c'est ça, c'est là où on va gagner beaucoup de notre crédibilité aux yeux du prospect. Et enfin, la bienveillance, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un questionnement avec le prospect qui soit positif. Trop d'experts deviennent, j'ai un confrère qui appelle ça des bâtons à merde, c'est pas très gentil, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance en tant qu'expert à vouloir chercher ce qui ne va pas. Et à presque vouloir accabler ce pauvre prospect, parce qu'on a en tête, vous savez, ce genre de réflexion, oui, de toute façon, les PME ne savent pas gérer leurs comptes clients. De toute façon, la gestion des DRH est désastreuse dans le BTP. Et on arrive ainsi chargé d'a priori négatifs que l'on véhicule dans notre échange avec le prospect. Et le prospect ne va pas se sentir bien s'il sent chez nous une posture où en fait on le considère comme un crétin irresponsable. Il ne va pas se sentir bien, il n'aura pas vraiment envie de travailler avec nous. Donc soyons vigilants à rester bienveillants et tournés vers le positif, vers demain. Plutôt que de l'accabler sur tout ce qu'il a mal fait, voyons comment il pourra mieux faire demain. Et d'ailleurs, il y a une très très bonne question à poser quand on démarre cette phase de questionnement avec le prospect, quand on termine sa présentation, c'est celle-ci, c'est quel est le sujet sur lequel je peux vous être le plus utile. Enfin, cette phase de questionnement doit permettre de bien mettre en exergue donc un écart entre une situation actuelle, un état présent et un état futur désiré. Je vois que l'heure, j'ai peur qu'on soit un peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer pour qu'on voit tout. Comment réussir le R2 ? Pardon, j'ai pas compris la question. Pardon, c'est la meilleure question à poser au prospect. Quel est le sujet sur lequel je peux vous être utile ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, une fois qu'on a terminé notre présentation, voilà, j'ai terminé ma présentation, quel est, compte tenu de ce que je viens de vous présenter, quel est le sujet sur lequel je peux vous être le plus utile ? Et le, et c'est important qu'il soit en majuscule, parce que le but, c'est vraiment de mettre l'emphase, l'accent sur le sujet qui est le plus important pour le prospect. Vous venez de présenter votre offre de conseil en RH, par exemple. Vous venez de lui expliquer votre périmètre d'intervention. Voilà, la meilleure question à lui poser, c'est celle-ci. Quel est le sujet sur lequel je peux vous aider ? Ça, j'ai répondu à votre question ? Mais je vous recommande d'appliquer cette question. Quand ils viennent vers vous, très bien, merci d'être venu vers moi, quel est le sujet sur lequel je peux vous être le plus utile ? Alors tiens, on va commencer déjà l'interactivité, c'est génial, mais si vous ne concluez pas, ça c'est intéressant, tiens, comment ça se fait que je ne conclue pas? Moi j'attire bien votre attention sur ce point. Est-ce qu'on prend bien le temps, dans notre dialogue avec le prospect, de bien faire naître un écart entre une situation actuelle et une situation future désirée? C'était, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ben voilà, aujourd'hui au niveau des RH, ça se passe comme ci, comme ça. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez avoir demain? S'il existe, aux yeux du client, aux yeux du prospect, un écart significatif entre cette situation, entre son état actuel et son état futur désiré, cet écart entre les deux, eh bien finalement, c'est le futur retour sur investissement de votre intervention. Mais si on ne prend pas le temps de le faire naître et de permettre au prospect d'exprimer ce que serait le retour sur investissement de notre collaboration, il y a très peu de chances qu'on le mette en mouvement. Et n'hésitons pas à poser la question aussi explicitement que celle-ci. Quel serait le retour sur investissement de notre collaboration? Qu'attendez-vous en termes de retour sur investissement de mon intervention? N'hésitez pas à multiplier les questions de ce type. Personnellement, pardon, il y a une question que j'aime bien poser, c'est si nous travaillons ensemble, je vous ferai des factures et je souhaite qu'elles soient non seulement payées, mais qu'en plus, quand je reçois le chèque, il y a un post-it avec marqué « Merci ». Moi, si je n'ai pas le post-it avec marqué « Merci », je suis malheureux. J'encaisse quand même le chèque, mais triste. Donc, qu'est-ce qu'il faudra que vous ayez comme résultat concret pour que vous me fassiez un chèque et que vous colliez un post-it avec merci dessus? Ou on peut le faire de manière plus littéraire, à l'aune de quoi allez-vous évaluer le retour sur investissement de notre collaboration? Peu importe la façon dont vous formulez vos questions, mais l'essentiel c'est de bien questionner notre prospect sur ce qu'il attend de notre collaboration. Et s'il en attend rien, ben, ne nous l'aurons pas, il n'achètera rien. 90% du succès de la phase commerciale, quand on est consultant et d'ailleurs quoi que l'on vende, se fait dans la phase de découverte et dans la phase de questionnement. Si on a bien réussi notre phase de questionnement, on a réussi 90% du job commercial. Pour continuer sur cette phase commerciale, j'aimerais attirer votre attention donc sur le deuxième rendez-vous, celui que j'ai appelé le R2, c'est-à-dire le rendez-vous où on présente notre offre. Première remarque, il se peut qu'on rencontre un prospect qui nous a expliqué tout son problème. On lui dit, écoutez, je vais vous faire une offre si vous êtes d'accord. Et là, il nous dit, oui, bien sûr. Et vous me l'envoyez, votre offre? Là, qu'est-ce qu'on doit lui répondre? On est d'accord? Non, je ne vous envoie pas mon offre. Je reviens vous la présenter. C'est essentiel de tenir le R2, c'est-à-dire que c'est essentiel qu'on présente nos offres. Si vous escomptez signer des offres en les envoyant par email, vous divisez vos chances de signer tout simplement par 10. Présentons nos offres, c'est essentiel. La proposition commerciale, d'ailleurs, à ce sujet, est un support stratégique dans le monde du conseil. Je vois beaucoup de consultants qui démarrent investir dans une plaquette. Pire encore, un flyer. C'est péché, hein, on est d'accord. Une plaquette, ça sert absolument à rien dans le monde du consulting. Économisez vos sous et investissez, si vous avez des sous, vous les investissez au contraire dans le design et dans la charte graphique de vos propals. Ça oui. La proposition commerciale, c'est vraiment un support stratégique. Parce que c'est un moment extrêmement anxiogène pour le prospect, c'est le moment où il décide ou pas de travailler avec nous. Donc c'est important qu'il découvre dans la propale des éléments rassurants et séduisants. Alors pour justement faire un petit focus sur la propale très rapidement, un axiome déjà très simple. La propale ou la proposition commerciale, c'est le plan de travail. C'est-à-dire que si on construit notre propale en se disant bah, c'est tout simplement le plan de travail, c'est-à-dire que du coup je vais être didactique, clair, pédagogique, détaillé, rassurant, je vais bien détailler la durée des journées, l'implication en termes de travail pour lui, les livrables, j'aime pas cette expression, mais ce qu'il aura au terme de chaque étape, ce qu'il aura en main, ce que l'on va faire ensemble, ce qu'il devra faire lui, ce que je vais faire moi. Être très clair, très didactique. La propale, c'est le plan de travail. Ça peut être un très très bon axiome. Il y a quatre grandes parties dans une propale. En général, il y a le contexte. C'est la conférence de derrière, d'accord. Je croyais qu'il y avait un monsieur qui posait des questions. Le contexte, il nous reste 10 minutes. Donc le contexte, ce qui justifie dans la situation du client qu'il ait potentiellement besoin de nous. Les enjeux, c'est-à-dire justement le futur retour sur investissement, ce qui va justifier nos honoraires, ce qu'il attend de notre intervention, les enjeux. Ensuite, la proposition détaillée, étape 1, étape 2, étape 3, voilà ce qu'on va faire, comment. Pardon, excusez-moi. Alors, donc si on revient sur les deux premières parties, contexte, c'est ce qui justifie que le client ait besoin de nous. C'est-à-dire que contexte, l'écueil, c'est d'expliquer au client qu'il fabrique des pneus. Ça, c'est pas la peine, il est au courant. C'est ce qui justifie qu'il a potentiellement besoin de nous. Dans un contexte de concurrence accrue, vous avez décidé d'eux. Les enjeux, c'est le retour sur investissement. Vous attendez de notre collaboration de remobiliser les équipes. Vous attendez que les équipes de la logistique soient parfaitement à nouveau mobilisées par je ne sais quoi. Vous attendez de notre collaboration de réussir votre certification qualité. Vous attendez de notre collaboration de sécuriser votre système d'information et de le rendre robuste aux attaques de la concurrence. C'est-à-dire, c'est des exemples, c'est l'illustration concrète du retour sur investissement. C'est-à-dire que quand le prospect lit les enjeux, il dit oui, c'est ça que je veux. D'accord. Ensuite, troisième étape, la proposition proprement dite, c'est-à-dire pour vous aider à atteindre ces objectifs-là, voilà ce que nous allons faire ensemble. On va faire première étape, on va faire un diagnostic, deuxième étape, on va faire une réunion comme ci, comme ça. C'est que vous détaillez ce que vous allez faire. Et quatrième partie, j'ai oublié, évidemment, c'est le budget, le calendrier et le budget. Essentiel, la propale aussi, de bien investir dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un support qui doit être choyé, soigné, une belle charte, une belle mise en forme, jusqu'à la qualité du papier sur lequel on imprime sa proposition. Personnellement, j'imprime mes propositions sur du DCP Clairefontaine 100 grammes. Parce que le 100 grammes, ça tient beaucoup mieux en main que le 80. Et psychologiquement, c'est quand votre prospect, quand il tient votre propale, si elle est solide, il va se dire que la prestation, elle est solide. Donc jusqu'à, c'est important, le diable est dans les détails, mais investissons dans la forme. Pour rester à peu près dans le timing, deux dernières applications concrètes de l'audace. Imaginons, tiens, voilà, on a fait, ça y est, une proposition à une très belle boîte de la région avec laquelle on rêvait de travailler. Il y en a pour une dizaine de jours. C'est notre première grosse mission, on a présenté la propale, on est allé au R2, on est un petit peu tremblant, le client a l'air content, et il nous dit, bon bah écoutez, banco, je suis d'accord pour travailler avec vous madame, mais bon, on est quand même le groupe Michelin, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous faire une remise de 25%, parce que vous serez extrêmement gagnant de nous avoir comme référence. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre à ce monsieur de chez Chimelin, on va modifier les noms. Quelle est la première bonne réponse qu'on doit lui donner quand il nous demande une remise? C'est vrai, en plus, oui, c'est vrai. Bon, alors moi j'achète des Dunlop, remarque, je suis mal placé, mais quelle est la première bonne réponse qu'on doit lui donner? C'est non, on est d'accord. C'est-à-dire qu'une bonne application concrète de l'audace, aussi, c'est oser défendre son prix. C'est-à-dire que la première bonne réponse à donner à un prospect qui nous demande une remise, c'est non. La deuxième bonne réponse, C'est toujours non. C'est toujours non. C'est-à-dire, osons défendre notre prix avec âpreté, avec conviction, avec des arguments. Et si, par extraordinaire, on décide d'accorder une remise, la contrepartie essentielle, c'est-à-dire comment ? Recommandations, études de cas, témoignages, une mission plus importante sur un deuxième site. Il est essentiel, si on décidait par extraordinaire d'accorder une remise, toujours, toujours une contrepartie. Et osons ça demander des contreparties. Et on peut obtenir des contreparties très intéressantes si on décide de baisser ou d'accorder une remise. Remarque d'ailleurs, attention à l'effet cliquer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, plutôt que de baisser son prix jour, accorder une remise exceptionnelle, plutôt que de baisser son prix jour, son TJM, comme on dit dans les métiers de l'informatique. Parce que là, du coup, vous avez un effet cliquer. C'est que du coup, toutes les missions suivantes chez ce même client seront à ce prix bradé. Donc il vaut mieux accorder, par exemple, du cadeau ou de la remise ou une prestation en échange de contrepartie, plutôt que de baisser son prix jour, parce que là, on a un effet cliqué. Maintenant, on peut également adopter une posture, moi que j'appelle la posture du psychorigide, c'est-à-dire que vous n'accordez aucune remise, rien. Et vous êtes capable de le défendre jusqu'au bout. C'est pas incohérent dans le monde du consulting. Mais bien sûr, Madame disait que c'est beaucoup plus bénéfique finalement de ne pas accorder de remise, parce que en fait c'est beaucoup plus rassurant et c'est beaucoup plus sécurisant pour le client. C'est clair. Je pense que le marché du consulting, c'est pas un marché qui est dominé par les prix. Et on peut tout à fait avoir une posture où on ne bouge pas d'un centime son prix, sous réserve évidemment qu'il soit dans les prix du marché. Si vous avez été pris de folie et que vous êtes pris complètement hors marché, ça, il y aura un souci. On va attaquer du coup la partie interactive. Ah. Alors c'est... Donc, comment connaître les prix justes du marché ? Je vous recommande un excellent livre qui s'appelle Consultant sans réussir et durer, j'en parle. Grosso modo, alors déjà il y a deux décalages, il y a vraiment Paris et le reste de la France. Paris est à environ 20 à 30% plus cher que les régions. Au revoir. Deuxième effet, il y a les matières dans lesquelles on intervient. C'est-à-dire que, grosso modo, les consultants les plus chers, c'est la matière la plus noble, c'est la stratégie. Et plus on descend dans l'opérationnel, eh bien plus les prix descendent. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez stratégie, marketing, et petit à petit, ça descend. Après, c'est également variable en fonction de l'expérience du consultant, du secteur auquel il s'adresse. Alors, c'est vrai que on constate effectivement que, par exemple, ceux qui vendent et qui travaillent, qui font du consulting pour les collectivités territoriales ont plutôt des prix plus bas que ceux qui travaillent pour les entreprises du privé, et que quand on travaille pour les grandes entreprises, on a plus la possibilité de vendre cher que si on vend pour les TPE. Là encore, parce qu'il y a la question du ROI, quand vous intervenez dans une TPE et que vous faites exploser son chiffre d'affaires de 30%, vous avez fait peut-être gagner 60 000 euros à l'entreprise. Si vous faites gagner 30% de chiffre d'affaires chez Total, je ne sais pas le calculer, mais on peut vendre du coup sa journée sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc ça va dépendre de ces différents paramètres-là, mais grosso modo, en région, un consultant senior expérimenté, c'est pas du tout déconnant de le voir tourner entre 1 000 et 1 200 euros la journée. C'est pas du tout... absurde. Voilà. Peut-être parce qu'on est arrivé dans le timing, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la part interactivité pour rester à peu près dans les heures, et vous avez spontanément commencé avec vos questions. Je vous propose qu'on continue justement sur ce sujet. Alors, est-ce qu'il existe un site qui répertorie les tarifs des consultants ? À ma connaissance, non. Après, dans les régions, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais on trouve souvent des syndicats régionaux de consultants. La Chambre professionnelle du Conseil, par exemple, en région PACA, fait chaque année une étude sur le prix moyen des journées, sur le chiffre d'affaires moyen par cabinet. Et souvent, cette étude-là est faite dans les différentes régions. Et elle est faite à la fois donc sur chaque région et consolidée au niveau national. Donc, si vous tapez Chambre professionnelle du Conseil, vous devez trouver ce type d'étude. Le monsieur.
Si je suis face à une demande de ristourne, du montant que vous avez évoqué, là, 25%, est-ce qu'il est opportun de, par exemple, négocier une part sur le résultat ? Donc, une partie fixe, une partie variable. Là, il aura de mauvaise grâce, le gars en face, à me dire non.
Ok. Les fameux success fees, comme on dit en bon français. Les honoraires de résultat. Alors, pour faire simple, vous imaginez une ligne, et sur cette ligne, vous mettez d'un côté faire, et de l'autre côté faire. D'accord ? Et sur cette ligne-là, tâchez de vous positionner. En effet, le champ possible pour un consultant peut osciller entre faire ou faire. Pour vous donner deux exemples très concrets, si vous faites du coaching, vous êtes complètement du côté faire. D'accord ? À l'inverse, vous êtes DAF externalisé ou vous faites de la levée de fonds, vous êtes complètement du côté du faire. Si vous êtes du côté du faire, vous pouvez avoir une part variable de vos honoraires, puisque la mission est grandement liée à votre travail. Et d'ailleurs, par exemple, les gens qui font de la levée de fonds, une grosse part de leur rémunération, voire 90% de leur rémunération, est faite par des honoraires de succès. À l'inverse, un coach qui est à 100% dans le faire-faire, ne doit surtout pas avoir une part variable, une part d'honoraire de succès. On me fait signe qu'il faut vraiment s'arrêter, donc du coup, est-ce qu'on peut prendre une dernière question ou pas ? Oui ? Allez, une dernière question. D'accord. Voilà, donc est-ce qu'une mission conseil peut vraiment migrer et se transformer en mission action, en mission résultat et par exemple donc une mission de prospection commerciale, oui, pourquoi pas. Le tout, c'est de ne plus l'appeler conseil, et ça devient vraiment une mission action, c'est-à-dire, et c'est vrai que ça se produit, certains clients, notamment PME, sont ravis de la stratégie qu'on a élaborée avec eux, ils disent, écoute, c'est super, mais dans l'idéal, ça serait mieux que tu le fasses. Et là, c'est à nous de décider jusqu'où on décide d'aller dans le faire, ou jusqu'où on décide de ne pas aller. Ça, c'est vraiment un choix. Ah oui, nous ne sommes pas une profession réglementée. Non. On n'a pas les contraintes de l'avocat ou de l'expert comptable. Nous, on n'est pas une profession réglementée. Tout ce qui n'est pas illégal nous est autorisé. Donc vous pouvez tout à fait avoir conçu la stratégie commerciale d'un client, et puis vous dit, écoute, Philippe, elle est super ta stratégie, mais j'aimerais mieux que tu la mettes en œuvre. Libre à vous de décider de la mettre en œuvre, justement. Le seul écueil, c'est qu'on est vous êtes en train de changer de métier, et qu'une mission action va être extrêmement preneuse en termes de temps. Et on peut se retrouver pris en termes de plan de charge à 60-70% par un seul et même client. Et attention que l'opérationnel ne vit pas au même rythme que le conseil. C'est que souvent, l'opérationnel, quand on est pris dans l'opérationnel d'une entreprise, ça ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, c'est toute la difficulté, par exemple, des gens qui ont le positionnement, par exemple, de DAF ou de DRH à temps partagé. C'est très difficile pour eux que l'entreprise du lundi-mardi ne vienne pas empiéter sur le mercredi-jeudi-vendredi, parce que le mercredi-jeudi-vendredi, elle continue de bosser cette boîte. Donc, c'est simplement ce à quoi il faut faire attention. Et en revanche, c'est vrai que si vous êtes dans le faire-faire, fuyez comme la peste les honoraires de résultat, parce qu'en fait, Si vous êtes dans le faire-faire, les honoraires de résultat ne vont attirer que des clients toxiques qui ne croient pas dans le succès de la mission. Or, dans le faire-faire, le client est coproducteur à 50, 60, 70 ou 80% du résultat et du succès de la mission. Donc si vous trimballez... Quand on est dans le faire-faire, on est comme un moniteur de ski. Un moniteur de ski, il peut faire tout ce qu'il veut. Si vous n'avez pas envie de skier, il va réussir à rien. Donc un moniteur de ski, il a du succès, c'est avec des élèves motivés et en forme, en plus.